Chers amis, dobrý den, bonjour, bienvenue à l'écoute d'une nouvelle émission en français de Radio Prague, une émission comme tous les débuts de week-end consacrée à la culture et à la littérature. La littérature, ce sera en deuxième partie d'émission avec, comme d'habitude, le monsieur livre de Radio Prague, j'ai nommé Václav Richter. Mais d'abord, on va parler de culture, de grande culture, avec la rediffusion d'une émission diffusée en septembre 2013, une émission préparée par Denisa Tomanova sur le plus célèbre des Tchèques. Je ne sais pas si vous savez déjà de qui il s'agit, mais d'après l'enquête réalisée en 2005 par la télévision tchèque, eh bien ce serait Jara Zimmermann qui aurait reçu le plus de voix en ayant devancé le roi Charles IV ou les présidents Václav Havel et Tomáš Garrigue Masaryk. Après consultation avec la BBC, la première place a dû lui être retirée, provoquant ainsi la colère de certains. La raison de ce retrait, eh bien, elle est simple. Il ne s'agit pas d'un être humain, mais d'un personnage fictif. Et oui, Jara Zimmermann n'a jamais existé. Cela témoigne toutefois du fait que Jara Zimmermann occupe une place non négligeable au sein de la société tchèque.
Culture sans frontières.
Si ce n'est que récemment qu'il a été désigné comme le plus grand des Tchèques de tous les temps, le nom de Jara Zimmermann a résonné pour la première fois en Tchécoslovaquie il y a exactement 47 ans. Mais qui était vraiment ce Jara Zimmermann qui a réussi à prendre une telle place dans l'esprit des Tchèques et dans leur quotidien ? À l'origine, ce destin insolite, il y a la volonté de réaliser une parodie, de plaisanter.
Tady je Praha, vinárna u Pavouka. Hlásím se ze svého stanoviště v koruně kaštanu. Několik okamžiků nás dělí od slavnostního zahájení letní sezóny v naší koncertní vinárně. Dnešní program, vážení přátelé, probíhá ve všech prostorách podniku.
Le bar à vin non alcoolisé au Pavouka, chez l'araignée, tel est le nom des émissions de radio créées par deux hommes, Jiří Šebánek et Zdeněk Svěrák. Diffusée pour la première fois en 1966, la série d'émissions de ce bar à vin au Pavouka, qui faisait croire qu'il s'agissait de retransmissions en direct, est une pièce, une sorte de mystification, qui ne devait pas dépasser les limites fixées par l'époque pendant ses quatre années d'existence. Or c'est bien au tout début de cette aventure radiophonique, le 16 septembre 66, qui évoquait pour la première fois le nom de Jara Zimmermann et que naissent les bases de cet humour mystificateur. Un humour qui sera si bien représenté dans le personnage de Zimmermann, incarnant alors un sculpteur naïf et un chauffeur de rouleau compresseur. Pendant la normalisation, les 40 parties de cette émission ne sont pas une seule fois rediffusées et ce n'est qu'à la fin des années 1990 que la radio tchèque les fait redécouvrir grâce à ses innombrables archives toujours bien conservées. Un des pères spirituels de Jara Zimmermann est Zdeněk Svěrák, qui a par la suite poursuivi son tandem d'écrivains avec Ladislav Smoljak. Loin d'être désormais inconnu du public tchèque, Zdeněk Svěrák nous parle des débuts.
Au moment où je me lance dans mon discours dans ce bar à vin de l'araignée, alors nous n'avions vraiment aucune idée de ce que nous étions en train de créer à travers ce personnage. Ce Jara Zimmermann, dans cette pièce de théâtre, c'était notre contemporain. Il était conducteur d'un rouleau compresseur, des constructions de routes et de voies ferrées, et les objets qu'il montrait étaient des objets qu'il avait précédemment déformés en leur roulant dessus. Donc il s'agissait très probablement d'un descendant du vrai Jara Zimmermann, car cette idée correspondrait bien. Mais le vrai Jara Zimmermann, que l'on connaît de nos jours, on l'a présenté au grand public un an après cette émission radio, en supposant que les gens oublieraient que nous avions déjà utilisé ce même nom auparavant.
Jara Zimmermann serait donc né à deux reprises, car c'est bien en 1967 qu'il apparaît de nouveau, et ce dans la première pièce de théâtre intitulée Acte, jouée dans un lieu culturel mythique, la Malostranská Beseda, au centre de Prague. Ce Jara Zimmermann ne sera plus le contemporain des écrivains qui l'ont créé, mais tout simplement un génie tchèque, né à Vienne entre 1853 et 1859, même si cinq autres dates de naissance sont possibles, en raison de la calligraphie déplorable de l'officier de l'état civil. Yara Zimmermann est le plus grand dramaturge, poète, musicien, professeur, voyageur, philosophe, inventeur, criminologue et sportif tchèque de son temps. Car c'est bien lui qui a déposé au gouvernement américain le projet du canal de Panama, qui débutera en 1880, et c'est toujours lui qui a construit avec le comte allemand Ferdinand von Zeppelin le premier aérostat. Et c'est toujours lui qui a transporté 45 hôtes d'uranium dans la cave des époux Curie. Et pour terminer, c'est même Yara Zimmermann qui a procuré une sous-location à Gustave Eiffel, qui est fini par lui conseiller de dessiner des pieds plus souples à la future tour Eiffel. Mais pourquoi avoir donné un nom de famille retranscrivant phonétiquement en tchèque un nom allemand voulant dire « homme de chambre » Zdeněk Svěrák explique.
L'émission Le bar à vin de l'araignée, nous l'avons écrite à deux, Jiří Sebanek et moi-même. À l'époque, Jiří aimait bien le nom de Zimmermann. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était sûrement à cause du fait qu'il y avait un joueur de hockey qui jouait pour le club de la ville de Chomutov. Et probablement, il a dû entendre son nom à la radio. Et puis, on l'a baptisé Yara pour lui donner un petit air artistique. La combinaison entre un nom allemand pour un patriote tchèque et un prénom soi-disant artistique était naturel. Pour l'époque, c'était courant. On pourrait citer entre autres Yara Kohout, par exemple, ou Jindřich Prachta.
Le succès phénoménal de la troupe du théâtre Yara Zimmermann, qui changera de lieu de représentation à plusieurs reprises, a eu un grand retentissement grâce à l'évocation constante du milieu socioculturel, de la contrée et des habitudes tchèques, avec des liens continuels avec l'Autriche-Hongrie. Car après tout, Yara Zimmermann, qui est née à Vienne, s'est toujours sentie patriote tchèque. À l'époque de la normalisation, cette façon de mystifier les choses entrait en contradiction la plupart du temps avec tout ce qui avait un caractère officiel. La mystification, qui tend vers la moralisation, pouvait même résonner comme une double parodie dans le cadre d'un régime sévère. Au total, 16 pièces de théâtre ont été écrites. Leur originalité tient également au fait que la troupe théâtrale a toujours été uniquement composée d'hommes. Cette réalité fait référence au fait que Yara Zimmermann avait une grande sœur et que l'on l'habillait dès son plus jeune âge dans des vêtements de filles puis de jeunes filles pour économiser. Les hommes de la troupe utilisent donc ces vieux vêtements pour se déguiser en femmes sur scène, créant ainsi de nombreuses situations absurdes et comiques. Mais après tout ce succès, y a-t-il pu y avoir des moments où les inventeurs de Yara Zimmermann auraient pu regretter leur création ? La réponse semble claire, non. L'éclosion de ce personnage ne peut être regrettée à aucun moment, car cela fait plus de 46 ans qu'il grandit avec toute la troupe, laquelle a vu passer un grand nombre d'acteurs. Comme si le théâtre Yara Zimmermann était un passage obligatoire pour s'imprégner du scepticisme intellectuel tchèque qui se base sur l'unique et seul mot. Initialement composée de 7 acteurs amateurs en 1967, la troupe de théâtre de Yara Zimmermann s'agrandit à mesure qu'elle rencontre le succès avec le temps. Aucun des membres fondateurs n'a quitté de sa propre volonté la troupe, mais comme la vie n'est pas éternelle, la troupe a récemment perdu 3 de ses membres, Ladislav Smoliak est parti en 2010, Pavel Vondrushka en 2011 et Jan Kašpar en juin 2013. Zdeněk Svěrák en tire une conclusion.
Nous n'éduquons pas nos remplaçants. Le corps théâtral vieillit et les départs douloureux, nous les gérons de plusieurs façons. Soit nous reprenons les rôles, nous qui sommes encore restés à bord, soit nous laissons certains de nos collègues, amis, acteurs de différents endroits nous aider. Par exemple, Miroslav Taborski alterne avec moi dans le conte Dlouhý, Široký a Krátkozraký, pouvant être traduit comme le long, le large et celui à courte vue. Pour la pièce Meurtre dans un compartiment de train, nous avons demandé au fils d'un membre de notre troupe qui y participe. Le fils de Milan Čepelka, un des membres fondateurs du théâtre en 1966, est également acteur dans un théâtre de Hradec Králové. Donc les deux alternent. C'est de cette façon que l'on essaie de maintenir notre répertoire en entier afin que le spectateur puisse sans arrêt voir nos 15 dernières pièces de théâtre.
Sans arrêt est une expression euphémisée, sachant que les représentations s'enchaînaient à certains moments de leur carrière au rythme de 5 fois par semaine, un exploit pour des acteurs dont ce n'était pas le gagne-pain principal. Avec le temps, le succès s'est massifié, notamment du fait que les deux excellents dramaturges Svěrák et Smoliak ont trouvé leur place dans le cinéma tchèque en écrivant et en réalisant un grand nombre de scénarios, de films légendaires pour toutes des générations entières de Tchèques. Ils n'ont pourtant pas cessé de se produire dans la petite salle du théâtre de Žižkov, dans le 3e arrondissement de Prague, où ils avaient atterri en 1992. Même si la période après la révolution de velours n'a pas été simple en raison de tous les événements entourant l'avènement de la démocratie, notons qu'à chaque entame d'une nouvelle saison, et ce depuis bien plus d'une dizaine d'années, les places en prévente pour les représentations du mois à venir disparaissent en moins d'une heure. Mais l'aventure ne s'arrête pas au théâtre. L'orchestre symphonique tchèque et la compagnie de la troupe de théâtre Jara Zimmermann se sont produits ensemble en juillet dernier à la maison municipale de Prague, et ce à l'occasion de la première mondiale de l'opérette Prosso de Jara Zimmermann, une perpétuation de la mystification. Zdeněk Svěra, qui joue lui-même du violoncelle depuis le film Kolya, avoue avoir eu des doutes et des appréhensions vis-à-vis de la présentation de l'opérette, en avouant qu'il s'agirait probablement d'une première et d'une dernière.
Ce sont les membres de l'orchestre symphonique tchèque qui sont venus vers nous avec une idée, car ils aiment apparemment beaucoup la pièce de théâtre de Jara Zimmermann, l'auberge sur la Mitinka, qui est en fait le tronc de cette opérette. En fait, j'avais une certaine appréhension, jusqu'au jour même de la représentation, car la salle Bedřich Smetana, c'est un vrai temple de la musique. Il est vrai que cette salle fait en même temps partie intégrante de Jara Zimmermann, car elle a été construite à son époque, c'est un joyau du style de la sécession. Mais je me demandais à la fois si notre parole, nos conférences y seront tout d'abord entendues, mais aussi s'ils pourront faire partie de tout cela. Mais si tout est bien sonorisé, et si vous parlez comme dans une église, en douceur, en laissant résonner les mots, et si vous avez un public en face de vous, qui pour l'occasion était exceptionnel, alors cela crée un rapprochement entre l'orchestre et la troupe, c'est-à-dire nous-mêmes. Tout s'est bien terminé, c'est aussi une époque où il y a des querelles constantes et de nombreuses rancunes dans notre société, et tout d'un coup, des gens, le public, s'est réuni dans cette salle de musique en voulant contribuer ensemble à une œuvre commune sans se disputer.
Vous comprenez désormais pourquoi Jara Zimmermann est donc plus qu'un personnage fictif, même s'il peut toujours en avoir l'air. Si vous doutez toujours, demandez des précisions aux Zimmermannologues qui vous expliqueront le fondement de cette science. Ce qui est certain, c'est que Jara Zimmermann a réussi à mettre en relief le fait que l'humour tchèque s'amuse toujours de ceux qui se prennent trop au sérieux. Quittons-nous sur une citation zimmermannienne. Je cite « Les maux de vieillesse qui affectent principalement les intellectuels sont représentés avant tout par deux défauts complémentaires, à savoir l'incapacité à maintenir une idée et l'incapacité de la quitter. »
Et après Jara Zimmermann, on passe à de la littérature non fictive, les nouvelles modalités d'accès à l'information, open access et l'évolution des droits d'auteur. Voici le thème de l'émission préparée par Václav Richter.
Rencontre littéraire. Les nouvelles modalités d'accès à l'information, open access et l'évolution des droits d'auteur, tel était le thème d'une conférence donnée le 1er décembre dernier à l'Institut français de Prague par Nicolas Delavergne de la Fondation Maison des sciences de l'homme de Paris. Ce dernier a évoqué ensuite au micro de Radio Prague ce thème qui, à l'âge du numérique et de la communication électronique, devient de plus en plus important. Vous venez de prononcer une conférence sur les nouvelles modalités d'accès à l'information. Quelles sont donc ces nouvelles modalités ? Peut-on résumer cette problématique ?
Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, le numérique a révolutionné la diffusion des connaissances scientifiques, des publications scientifiques, depuis une vingtaine d'années maintenant. Il faut d'ailleurs se rappeler qu'Internet a été créé par des universitaires pour partager des informations scientifiques au départ, et que c'est finalement à partir de ce modèle-là que c'est devenu beaucoup plus large après, mais la vocation originelle de l'Internet était le partage de publications scientifiques. Dans le cadre de l'Internet globalisé qui s'est mis en place et qui a été immédiatement saisi aussi par des entreprises multinationales, des entreprises, etc., il y a aussi dans le domaine scientifique des entreprises qui se sont saisies d'Internet pour diffuser autrement et pour faire du profit. Mais il y a aussi beaucoup de chercheurs qui se sont emparés d'Internet pour diffuser plus largement, de façon beaucoup plus ouverte, leur publication scientifique.
Expliquons le terme open access.
Alors le mouvement de l'open access ou de l'accès libre, l'accès ouvert en fait aux publications scientifiques, c'est un mouvement qui est né à peu près en même temps que justement ces gros opérateurs qui ont capté les revues et qui ont mis en place un système dans lequel l'accès aux revues scientifiques est enfermé par des abonnements très chers, ou des paiements à l'article très chers, etc. Ces chercheurs ont pensé, d'ailleurs dans une longue tradition de partage non rémunéré de la science. La science est faite pour être partagée, c'est le patrimoine commun de l'université, c'est le progrès général des sciences, et donc il ne faut pas que ce soit confisqué par finalement des acteurs économiques qui peuvent avoir un rôle dans la diffusion, mais quand leur rôle n'est plus celui de la diffusion, mais au contraire de la restriction à l'accès, ces chercheurs ont considéré qu'il fallait mettre en place des infrastructures, des structures, des institutions pour diffuser en accès libre les publications, c'est-à-dire que chacun, sans avoir à payer ou à s'identifier ou à appartenir à une institution qui paye, pouvait accéder au maximum de publications scientifiques.
Dans quelle mesure ces nouveaux phénomènes se reflètent-ils dans le domaine des droits d'auteur ?
Alors la question des droits d'auteur se pose de façon particulière dans le monde scientifique, dans le monde de la recherche scientifique, puisque effectivement on a une tension entre la cession des droits d'auteur par les chercheurs eux-mêmes aux grandes entreprises de diffusion de publications, et de l'autre côté on a des chercheurs qui eux-mêmes pensent que plutôt que de les céder à des grandes entreprises, il y en a qui pensent qu'il faut au contraire les ouvrir, les libérer, donc publier sous forme de licence Creative Commons ou en ouvrant les droits de manière à diffuser au plus grand nombre leurs publications. Les chercheurs perçoivent très rarement des droits d'auteur, à part quand ils publient des livres dans des maisons d'édition de façon traditionnelle, mais sinon sur les publications scientifiques, ils n'ont jamais perçu de droits d'auteur.
Notre conception des droits d'auteur connaît donc une évolution. Dans quel sens évolue-t-elle ?
Alors, le droit d'auteur, en fait, il est saisi par des acteurs pour le droit d'auteur et ses exceptions, parce que justement, il faut bien voir que c'est un droit avec des règles de droit, mais il y a aussi des exceptions qui sont des règles de droit qui permettent justement, depuis très longtemps d'ailleurs, par exemple, de citer un article ou une œuvre non scientifique dans le cadre d'un article scientifique pour l'analyser, le critiquer, etc. Donc il y a toujours eu des exceptions aussi. Aujourd'hui, ce qui se passe effectivement, c'est des luttes pour, à partir de ce droit et de ces exceptions, d'un usage loyal, du fair use, etc., ou des licences, des luttes pour aller plutôt vers une ouverture plus grande ou au contraire aller vers une forme de fermeture et d'appropriation.
Quel est votre avis personnel sur les droits d'auteur ? Sont-ils trop rigoureux ? Faut-il faciliter au public l'accès aux biens immatériels, à la littérature, à la musique, aux œuvres d'art ?
Alors le droit d'auteur, il est en fait, pourquoi est-ce qu'il est menacé dans le monde numérique que nous connaissons aujourd'hui ? C'est parce qu'effectivement la reproduction n'est plus limitée par le support physique. C'est-à-dire que surtout c'est ce qu'on appelle des biens immatériels. Ça veut dire que le fait que quelqu'un l'achète, ça ne prive pas quelqu'un d'autre de l'achat. C'est pas des biens. Quand vous achetez un livre, il y a un stock de livres. Une fois qu'il n'y a plus de livres, plus personne peut en acheter. Quand vous téléchargez un fichier, vendu ou pas, ça n'empêche pas 10 000, 20 000, 30 000 autres personnes de le télécharger aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a un changement de ce point de vue-là avec la vente des biens immatériels. La vente ou la diffusion, la circulation des biens immatériels. À mon sens, de ce point de vue-là, pour le, en tout cas pour ce qui concerne les publications scientifiques au sens assez large. Ça fait partie des domaines, comme d'ailleurs aussi ce qu'on pourrait appeler le domaine public, des biens communs, c'est-à-dire des choses qui sont pour le progrès général de l'humanité, qui sont pour le bien général de l'humanité, et qui ne doivent donc pas être accaparées par des acteurs précis.
Vous êtes spécialiste des humanités numériques, ce qui est un domaine de recherche qui n'est pas facile à définir. En tout cas, j'ai trouvé toute une série de définitions qui sont loin d'être identiques. Quelle est donc votre définition ?
Les humanités numériques, finalement, c'est à la fois la numérisation des humanités, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, finalement, on est dans un monde qui est autant numérique que réel. Enfin, le numérique fait partie du réel, de toute façon. C'est pas un autre monde qui s'ajoute à notre monde. C'est le même monde, mais qui est étendu. Les humanités numériques, c'est à la fois... c'est en fait un ensemble de choses assez compliquées. C'est-à-dire c'est à la fois le numérique dans notre monde, comment l'analyser. C'est aussi le numérique dans le champ scientifique, y compris avec les possibilités qu'il donne, y compris avec, par exemple, le big data, c'est-à-dire l'analyse de données, voilà. Et puis c'est tout ce que ça offre comme possibilités aussi, justement, qui sont quand même inédites de possibilités de diffusion au-delà des frontières, au-delà des barrières, même dans certains cas au-delà des barrières de langue, hein, parce qu'avec des traductions automatiques qui sont de plus en plus efficaces, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, c'est une sorte d'humanité, c'est des humanités augmentées.
Quel pourrait être le rôle des humanités numériques dans la diffusion, le partage et la valorisation du savoir ?
Aujourd'hui, elles jouent un rôle important dans le sens où elles sont pionnières, elles sont à l'avant-garde de justement la diffusion du savoir, c'est-à-dire que les publications scientifiques doivent être structurées, doivent être pensées pour être diffusées en ligne. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement des chercheurs qui sont particulièrement attentifs à faire en sorte qu'un livre soit plus juste seulement une série de phrases avec une majuscule au début et un point à la fin, mais soit aussi presque une base de données. C'est-à-dire qu'effectivement, dedans, on puisse circuler autrement, on puisse aller voir des éléments connexes, on puisse passer d'une partie à une autre, aller à une autre partie. Donc, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de possibilités ouvertes par le numérique, de façon générale, pour explorer différemment le monde.
Une des définitions des humanités numériques dit que c'est un domaine de recherche au croisement de l'informatique et des arts, lettres, sciences humaines et sciences sociales. Pouvez-vous donner un exemple de l'application des méthodes utilisées par les humanités numériques dans la littérature ou dans la recherche littéraire, par exemple ? Par exemple, le cas de la présentation simultanée de l'œuvre peinte et de l'œuvre littéraire de William Blake.
Alors, je ne connais pas précisément cette présentation, mais on peut donner d'autres exemples. Il y a des chercheurs qui ont travaillé, par exemple, sur la République des lettres au XVIIIe siècle et qui ont, à partir des lettres échangées par les savants de l'époque, ont montré en fait tous les réseaux de diffusion du savoir qui auraient été beaucoup plus compliqués de montrer uniquement de façon linéaire en travaillant dessus. Mais là, en mettant en base de données ça, on peut avoir des représentations graphiques, on peut avoir des mises en forme, justement des cartographies qui parviennent à montrer des choses qu'on ne peut pas montrer uniquement avec des schémas ou avec du texte.
Merci à Václav pour cette nouvelle rubrique littéraire. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et pour votre attention. Retrouvez-nous sur notre site internet www.radio.cz/fr pour accéder directement à nos pages en français. Je vous souhaite une très agréable soirée ou journée, où que vous soyez dans le monde.